Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je suis tout seul. C'est pas grave, on va faire comme à l'ancienne. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un podcast tout seul, mais ça fait aussi plaisir de se retrouver un petit peu en tête à tête. Vous l'avez vu, on va parler preview des demi-finales de conférence. Donc la NBA nous laisse pas beaucoup de temps, c'est aussi pour ça que je suis tout seul. Malheureusement, les emplois du temps n'ont pas concordé à ce que j'ai des invités. Donc ce que vous connaissez d'habitude, mais c'est pas grave, on va faire ça tranquillement, petit tête-à-tête, preview des demi-finales, donc Nets-Bucks, la série démarre ce soir, j'espère que vous êtes chaud bouillant, il va pas falloir rater un seul match de cette série, et Sixers-Hawks qui démarre demain soir à heure européenne, 19h je crois, donc ça c'est plutôt cool, on va pouvoir en profiter. Petit générique, et puis c'est parti. Donc pour vous rappeler un peu les bases, comment ça fonctionne la preview, je vais d'abord tirer un petit bilan rapide du premier tour et donc la dynamique de chaque équipe. Ensuite, les facteurs X. Alors là, comme je suis tout seul, je vais vous donner un facteur X pour chaque équipe. Ce sera plus intéressant, je pense. Et puis enfin, histoire de se mouiller et de montrer que je suis une vraie Madame Irma, je vais vous donner mes pronostics. Alors là, sur les premiers tours, les pronostics pour l'instant, ils sont pas super bons. Ça va, je pense que j'ai la plupart, évidemment, étaient faciles. Donc je dois être pas trop mauvais. Mais par exemple, mes pauvres Lakers ne sont pas passés. N'ont pas passé ce premier tour et les réseaux sociaux s'en chargent bien comme il faut de nous le rappeler là toutes les heures, tous les jours, toutes les heures. Bon, je digresse. On va commencer avec la série qu'on attend le plus, hein, puisque je vais faire ça dans l'ordre chronologique. Brooklyn-Boston. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on va s'occuper uniquement des équipes de l'Est pour aujourd'hui, puisqu'il reste un match, un Game 7, entre Dallas et Los Angeles, les Clippers. Donc ce sera dimanche soir, juste après le Hawks-Sixers. Ça va être très intéressant aussi. Je pense que ça va être énorme comme match, sachant le match qu'on a eu cette nuit, qui était déjà très sympa avec un énorme Kawhi. Mais bon, voilà, je m'éparpille. On va se reconcentrer sur le sujet Brooklyn-Boston. Alors, on commence par les Nets, du coup. Petit bilan du premier tour et dynamique. Bon, très bonne dynamique, évidemment. Ils sont sortis du premier tour 4-1 face à Boston. Des Celtics, on va parler un peu des Celtics qui étaient trop. Jason Tatum était trop esselé, 4-1 parce qu'il a fait un match à 50 points, il a sorti un match de vrai malade pour arracher une victoire à la maison. Mais dans l'ensemble, les Nets n'ont clairement pas rigolé et il n'y a pas eu photo en fait. Le trio Harden, KD, Kyrie est vraiment trop trop fort. Ils sont vraiment offensivement, ils sont vraiment très très flippants. Après, défensivement, il y a d'autres soucis, mais je vais prendre le temps d'en reparler un tout petit peu plus tard. L'équipe au global est vraiment très très forte. En termes d'adresse surtout, c'est très impressionnant. Ils tournent à pratiquement 50% au tir. Toute l'équipe sur toute la série, hein, qu'on s'entende bien. Et 42% à 3 points. Donc c'est vraiment 91% en lancer franc. En fait, la team sur 5 matchs, ils sont en 50, 40, 90 pratiquement. Donc ce qui est complètement affreux pour les adversaires en tout cas. On a vu que le trio avait pas forcément besoin de jouer plus qu'une petite dizaine, et encore ils n'ont pas joué 10 matchs en saison régulière, pour se trouver, pour se comprendre. Kevin Durant absolument fabuleux, 32 points de moyenne. Harden qui tourne, alors les points je sais pas, mais je sais qu'il fait un double-double avec un peu plus d'une dizaine de passes. Et on va dire que Kyrie Irving est un peu moins bon, puisqu'il a des pourcentages un peu moins bons. Ouais, il a que 49% au tir et un peu moins de 40%, je crois, à 3 points. Donc voilà quoi, vraiment, vraiment affolant. Non, petite boutade. Mais au-delà de ça, toute l'équipe, franchement, ouais, c'est flippant, je trouve, le mot qui me revient quand je pense à cette équipe. Ils sont vraiment très très impressionnants. Ils ont écrasé les Celtics, qui, comme je l'ai dit, n'avait pas forcément les armes, puisque Jaylen Brown était absent. Sur la fin, on avait même Kemba Walker qui n'était pas là, et le pivot, donc, Robert Williams. Voilà. Donc, y avait vraiment pas match, malheureusement, pour les Celtics. En tout cas, très belle dynamique, du coup, du côté des Nets. Une très belle dynamique qu'on retrouve, voire même un poil meilleur, parce que franchement, très impressionnant, je l'ai déjà dit, je me répète, hein, les Nets, mais les Bucks, je sais pas s'ils sont encore plus forts. En tout cas, ils viennent de se venger. Ils ont fait ça déjà il y a une semaine, un peu plus, même plus d'une semaine. Ils viennent de se venger magnifiquement du hit qui les avait sortis l'année dernière, pour rappel, 4-1 avec, bon, on connaît l'histoire, la bulle, Antetokounmpo blessé. Mais là, il n'y a pas eu de... Je ne sais plus si on avait pris le temps d'en reparler. On n'a pas fait de podcast entre les deux previews. Donc, il y a eu un premier game assez serré. Puis après, ça a déroulé. Milwaukee a vraiment roulé sur la série. Ils ont laissé aucune chance à base de puissance, puissance de feu. Je vais regarder un peu les stats. Bon, 118 points par match. Ils sont pas super adroit, hein, 46% au tir global, 32% à 3 points. Surtout, je pense à Giannis qui a mis, entre guillemets, que 23 points, 23 points de moyenne sur la série, sur les 4 matchs. Alors, il met que 23 points de moyenne, mais à côté de ça, il prend 15 rebonds et il fait pratiquement 8 passes décisives, je crois. Donc, on va dire un peu en berne en termes d'adresse au tir. Surtout à 3 points, il n'en a pas pris énormément. Et je crois qu'il il est à 1 sur 16. Je peux vous vérifier ça très vite. C'est ça, 1 sur 16 à 3 points. Bon, c'est pas son rôle, on le sait. Mais il s'était un peu amélioré. Et là, coup dur pour Giannis. En tout cas, c'est pareil. Il n'y a pas eu de débat. Ils ont été très, très impressionnants défensivement. En fait, c'est un peu... On a un peu deux monstres de chaque côté. Mais l'un très bon en défense, l'autre très bon en attaque. Donc le choc va être terrible. Et je ne sais pas qui aura le mot de fin entre les Nets et les Bucks, entre la puissance offensive et la puissance défensive. Mais pour revenir sur Milwaukee, c'est pareil, trio très impressionnant. Alors c'est un trio, on va dire, un peu moins fort, puisque les trois meilleurs joueurs sont clairement côté... Bon, enfin, les trois meilleurs joueurs. Le meilleur trio est clairement côté Brooklyn, en effet, parce que on pense... j'aime beaucoup Chris Middleton et Jrue Holiday, mais ils sont clairement en dessous de Kyrie Irving et James Harden. Ce qui fait que, de ce côté-là, plutôt avantage aux Nets. Mais à côté de ça, je l'ai dit, défensivement, ils sont vraiment meilleurs. Et puis, ils ont un collectif qui est tout aussi bon. Donc, on va avoir le droit à une vraie série, je pense. Surtout qu'ils ont un méga couteau entre les dents. Là, on est bien d'accord que chacune des deux équipes ne peut pas se permettre de sortir de cette demi-finale et pourtant, enfin de sortir, donc de sortir des playoffs après cette demi-finale. Et pourtant, y aura pas le choix, quoi. On aura bien une équipe qui sera pas en finale de conf. Là, ça, faut le dire sans bégayer. Mais j'ai fait le tour, je pense, pour les dynamiques. Deux très belles dynamiques de chaque côté. Je pense un peu favorable quand même aux Bucks avec la revanche qui a été prise, le côté peut-être mental. Ils se sont dit, là, ça y est, on a battu le Heat. Donc, on est invincible, on peut rouler sur tout le monde. Et puis, évidemment, un poil plus de repos puisqu'ils ont sweepé Miami. Mais du coup, voilà, c'est vraiment kiff-kiff bourricot, comme on dit, en termes de dynamique, à la fois très semblable et très différent sur le plan offensif-défensif, comme j'ai déjà pu le dire. On peut donc passer maintenant au facteur X, puisque j'ai à peu près tout dit sur les dynamiques. J'ai peut-être oublié la blessure de Dante DiVincenzo, qui... Je ne sais pas si ça va avoir un réel impact sur la série côté... Côté Bucks, c'est vrai qu'il apporte beaucoup au collectif. Il a joué 23 minutes quand même par match sur les 3 matchs qu'il a joué. Donc, à voir. Honnêtement, je ne sais pas trop si ça va vraiment changer quelque chose sur cette série. En tout cas, pour les Factor X, côté Nets, je vais regarder un peu l'intensité et la niaque qu'ils peuvent avoir. Donc, principalement le trio, parce qu'on le sait. Si KD nous a montré une belle défense durant ce premier tour. Et même globalement, KD, depuis qu'il est passé chez les Warriors, il sait qu'il peut défendre. Avec ce corps-là, tu peux très très bien défendre. Mais après, Kyrie, Harden, c'est des joueurs assez soft au final. Même quand ils veulent, ils peuvent. On le sait très bien avec Harden, on a déjà vu des séquences défensives. Alors, très rares, mais on sait qu'il est capable de défendre, de se la donner. Donc, voir l'intensité que ces joueurs-là vont mettre sur toute la série, surtout qu'en face, bah, les Bucks, c'est vraiment une équipe athlétique et qui joue avec une énorme intensité. Là, juste pour vous citer les joueurs, vous les connaissez, mais Antetokounmpo, évidemment, intensité de malade. Jrue Holiday aussi, il aime bien ça. Brook Lopez, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le meilleur scoreur de l'histoire des Nets. Donc, il peut avoir ce petit côté revanchard un peu sur son ancienne franchise. PJ Tucker, évidemment. PJ Tucker qui est vraiment connu pour être le chien de garde. Et lui, il va pas hésiter à en envoyer de l'intensité. Donc, à voir comment vont s'adapter, surtout le trio, même si le reste de l'équipe est assez soft aussi. En fait, c'est une très belle équipe. On en revient un peu. Très belle équipe offensive. Et défensivement, ça va être plus compliqué. Je vais surtout y revenir après sur le facteur X côté Bucks. Mais on n'a pas, on a Bruce Brown évidemment et Jeff Green qui peuvent aller un peu à la baston, mais le reste c'est plutôt tranquille. Donc à voir l'intensité des Nets et voir s'ils vont pouvoir répondre au combat physique que vont imposer les joueurs de Milwaukee. Donc ça va être très intéressant et je pense que s'ils prennent cette partie-là du jeu, enfin ils la prennent, ils pourront jamais être plus physiques que les Bucks. Mais s'ils arrivent à rivaliser un petit peu, je pense que ça peut faire une différence dans la série et ils peuvent très bien s'en sortir, voire même pourquoi pas passer en finale de conf, mais ça je vous en parlerai un peu à la fin. On va d'abord passer juste avant les pronos, je vais vous donner aussi mon facteur X du coup côté Bucks et ce sera un facteur X, ce sera un joueur en fait, ce sera je vais beaucoup regarder Giannis. On le sait, le gros problème des Nets, c'est leur racket. Comment est-ce qu'ils vont défendre sur le grec, sachant que bah lui, il est tout le temps dans la raquette en fait, et il détruit toutes les raquettes. Alors il s'en est pas très bien, enfin, c'est un peu vache de dire ça, mais il s'en est pas très bien sorti face aux Celtics. Un peu de problème de, j'en ai déjà parlé, problème d'adresse au tir. Là, il peut tourner clairement à 30-35 points de moyenne, je pense. S'il fait le jeu qu'on a vu pendant la saison régulière, donc moins porteur de balles, poser des écrans et rouler vers le panier, il y a moyen que ça fasse très très mal. On sait, Jrue Holiday, c'est un très bon passeur, il va le nourrir en ballon. Donc attention pour les Nets, attention à Giannis, qui peut-être qu'il est un peu frustré par la série qu'il a pu faire, par les 4 matchs qu'il a pu faire face au Heat, en termes de scoring évidemment, parce que je vous l'ai dit. 15 rebonds et pratiquement 8 passes de moyenne, c'est hallucinant. Donc peut-être qu'il va vouloir se rattraper et détruire cette raquette assez pauvre de Brooklyn. Petit rappel, bah là, qui c'est qui va. Je pense que c'est KD qui va principalement défendre sur lui, mais ça va être hyper fatigant pour lui en fait. Après, ils peuvent mettre du Jeff Green, pourquoi pas, du Nicholas Claxton, mais j'y crois pas vraiment. Ça va être un peu un problème insoluble côté net, ce Greek Freak dans la raquette. Et je pense que, enfin, c'est une évidence en fait, mais si Giannis détruit la raquette de Brooklyn littéralement et qu'il tourne en 35 points, voire même ça se trouve plus, honnêtement, je dis peut-être des bêtises, mais ça m'étonnerait pas qu'il explose offensivement dans cette série. Il n'y aura aucun moyen pour Brooklyn de le contrer. En tout cas, je vois très difficilement comment il peut faire. Tenter une zone comme Miami l'année dernière, et encore, je ne suis pas sûr que ça marche parce qu'après, Chris Middleton est très en forme. Jrue Holiday, il fait la meilleure saison de sa vie. On a pu en parler dans des podcasts précédents. Donc, je vois vraiment pas comment Brooklyn peut résoudre ce problème. Et je vais y venir du coup sur les pronostics. Je vois les Bucks passer en 7 matchs, je pense, un petit Game 7 là. Je pense qu'ils sont trop dans le mindset de gagner. Le sweep face au hit, je pense que ça leur met dans un. Ça leur a peut-être débloqué un truc mentalement de se dire c'est bon, on a passé le hit, maintenant on déroule, on va jusqu'en finale, on va aller la chercher parce que si on se rappelle bien, bah, ça fait deux fois qu'ils nous déçoivent un peu en playoff. Donc là, c'est un peu la revanche de la revanche de la revanche. Et les Nets, c'est un peu leur première année. Donc, entre guillemets, ils ont peut-être un peu moins la niaque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont peut-être un peu moins la niaque que les Bucks. Et puis, sur le plan, on le sait, on aime bien dire ça souvent, les défenses se resserrent en playoff. Enfin, c'est une réalité. Et là, la défense des Nets, elle est vraiment très mauvaise, enfin, très mauvaise comparée à celle des Bucks, sachant que comment ils vont faire pour défendre et Kyrie et Harden, ça je sais pas trop, mais celui qui sera en face de Jrue Holiday, il va pas forcément passer des bonnes soirées. Ils peuvent aussi se relayer sur KD en mettant bah, évidemment Antetokounmpo, ils peuvent mettre du plus petit, un peu plus costaud avec PJ Tucker, même si c'est difficile de défendre sur KD, on s'entend, hein. Mais ils pourront se relayer et peut-être l'épuiser comme ça, quoi, en lui faisant manger des différents défenseurs, différents profils défensifs. Donc c'est pour tout ça que je vois quand même, même si la frappe offensive de Brooklyn est hyper impressionnante, je pense que le côté défensif va quand même finir par l'emporter, sachant que bah, de l'autre côté du terrain, donc côté attaque, les Bucks ont quand même beaucoup de choses à montrer. Je l'ai déjà dit, Chris Middleton, Jrue, bah, évidemment, Antetokounmpo qui va se faire plaisir sur cette raquette. Mais j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai pas envie non plus de me répéter 15 000 fois. Je préfère être assez concis. J'espère que j'ai pas oublié trop de choses. Sinon, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires. Mais du coup, on va passer à l'autre série, Sixers Hawks, qui démarre dimanche soir. Offensively on the point. Let's see how they play this. Here is Young, finds his spot. Young on the floater, puts it in. Trey Young with a miraculous shot. Alors là, pour le coup, les dynamiques sont assez différentes de l'autre demi-finale. On a d'un côté, bon, on a deux équipes qui ont fumé leur adversaire du premier tour. Mais je pense que vous me voyez venir et je vais commencer par les Sixers. Très belle série. Face à Washington, aucun problème. 4-1, très solide. Le trio Embiid, Harris, Simmons, très fort. Et le collectif autour fonctionne très très bien. Mais je pense que vous l'avez vu, hein, la blessure de Joel Embiid, petite déchirure du ménisque. Alors on ne sait pas trop, c'est un peu fou. Enfin, si, on sait que ça touche, c'est le genou qui est touché. Mais on ne sait pas si c'est grave, si c'est moins grave, s'ils ne veulent pas tout nous dire. S'il va manquer un match, deux matchs ou pas de match, c'est assez bizarre. Bon, on touche du bois pour les Sixers et pour lui, évidemment, on ne veut pas que ce soit grave parce que une vraie déchirure du ménisque, enfin, ça peut engendrer plusieurs mois, semaines de. Je suis pas médecin, mais ça peut engendrer plusieurs semaines d'absence, sachant que Joel Embiid, c'est un beau bébé. Ça peut entraîner peut-être des complications. Bon, on ne va pas parler de tout ça maintenant. En tout cas, ce qui je pense est sûr, c'est qu'il démarrera peut-être pas la série, ou alors peut-être le début du match pour voir après. Il sortira peut-être si ça va pas. On verra bien. Mais donc, je pense que ça met un petit coup au moral quand même, hein, quand ton franchise player se blesse comme ça. Bien sûr, ils ont fini les Wizards comme il faut. Grâce notamment, alors moi je suis assez surpris, je sais pas, mais agréablement surpris de la série de Tobias Harris qui est très très costaud. Il envoie, je crois, 25 points en 50-40, je pense, 50, peut-être pas 40, 50-38% à 3 points, et puis il doit envoyer 90% là, c'est franc, j'ai pas les stats sous les yeux. Donc 25 points, 10 rebonds, il est très très costaud pour le coup sur. Il a été très très costaud pour le coup sur la première série. Et Ben Simmons, alors on se moque vachement de lui sur ses lancers francs et pour cause. Hein, là, comme je vous dis, j'ai pas les stats sous les yeux. Mais je crois que c'est catastrophique. Il doit être sous les 50% et peut-être même sous les 30%. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vous donnerai pas de chiffres. Allez voir par vous-même. Mais c'est vrai que c'est catastrophique. Après, au-delà de ça, dans tous les autres compartiments du jeu. Voilà, 10 rebonds, 9 passes. Il est très complet, très sûr de lui, ce qui paraît assez normal au vu de l'équipe qu'ils ont eue au premier tour. Mais en tout cas, c'est bien quoi. Les Sixers, ils ne se sont pas embêtés avec les Wizards. Ils les ont fumés comme il faut. Et ils passent à la suite. Et ils les ont fumés d'ailleurs. Bon, les Wizards, on connaît leur défense, mais 124 points de moyenne sur les 5 matchs, ça fait une très belle moyenne. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Qu'est-ce que je me suis noté, tiens, sur la dynamique? Collectif solide, Simmons, Harris, ouais, le collectif autour du trio duo, du coup, est très bon. En même temps, là, l'équipe, elle est bien bien construite comparée aux années précédentes. Les shooters, donc que ce soit du Seth Curry, du Danny Green, ou même du Matisse Thybulle, hein, pour de la défense. Non, franchement, ça fait plaisir de voir une équipe des Sixers aussi costaud. Ça promet pour la suite, en tout cas pour la finale de conférence. Encore une fois, si tout va bien avec Joel Embiid, même si ça ne changera pas forcément la face de la série face aux Hawks, et j'en parlerai un peu plus tard. Pour la suite, c'est très très important qu'il soit à 100% en fait, même que ce soit face aux Bucks ou face aux Nets, même à 80-90%, j'ai peur que ça suffise pas, parce que c'est vraiment le joueur clé de cette équipe. On va passer aux Hawks. Aux Hawks, quelle belle nouvelle, le petit upset de ce premier tour, en attendant, comme je vous l'ai déjà dit, la fin de Mavs Clips. Mais du coup, cinquième de l'Est qui a battu New York dans une série assez inattendue finalement. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Déjà, je voyais plus les Knicks passer. Et surtout pas les Hawks en 5 matchs, quoi. Là, il n'y a pas eu de débat. Très, très, très fort. Agréablement surpris, là aussi, pour le coup de cette équipe. Que ce soit le collectif, la défense, Trae Young hyper dominant. Alors lui, il doit pas avoir des pourcentages très folichons, mais il tourne quand même à 29 points, pratiquement 30 points et 10 passes, ce qui est pour, on le rappelle, hein, une première expérience de playoff. Très très bon. Et tous les gens qui parlaient de bust sur Trae Young, ils sont peut-être trompés finalement. Parce que pour une première expérience de playoff, c'est très impressionnant, ça fait plaisir. En plus, il fait le show, donc c'est vraiment une régalade. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Trae Young, moi j'aime beaucoup. Donc, très cool. Je vous le disais, on a aussi vu une belle défense. Donc ça, je crois que depuis qu'il y a Mac Milan, ils ont une belle défense. Depuis le retour de DeAndre Hunter aussi, j'en parlerai. La défense est très solide. En même temps, vous allez me dire, face aux Knicks et leur attaque un peu pourrave, c'est facile de bien défendre, c'est vrai. Mais en attendant, ils ont fait le boulot. Ils les ont battus en 5 matchs. Donc attention, je me permets de boire un petit coup. Voilà. Excusez-moi pour les bruits de bouche, mais là j'étais asséché. Je me suis noté quand même dans mes petites notes de dynamique. Est-ce qu'ils ont la meilleure dynamique des 4 équipes de demi-finale? Je sais pas. Bon, en tout cas, face aux Sixers, c'est sûr parce que leur saison déjà arrivée en playoff, c'est une saison réussie. Détruire les Knicks, c'est une saison encore plus réussie. Là, ils y vont encore plus léger. Ils ont vraiment rien à perdre, absolument rien. Donc ils vont se faire plaisir. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils embêtent un peu plus que ce qu'on pense, les Sixers. Même si ça va être compliqué, honnêtement, ça va être compliqué. Il y a moyen d'avoir une très belle série. Donc j'ai fait le tour pour les dynamiques. Je vais pas trop m'étaler. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. On essaie de réfléchir un peu là, mais tout en comblant, c'est pas forcément facile. Non, voilà, deux équipes qui ont surdominé, une petite blessure côté Sixers qui, j'espère, va pas trop avoir d'impact. Et puis côté Hawks, c'est un super leader qui est en train de faire mentir toute la planète basket. Donc on va passer au facteur X du coup. Un pour chaque équipe. On commence cette fois-ci avec les Hawks. Comme tout à l'heure, là j'ai pris, on va dire, un aspect du jeu d'un côté et un joueur de l'autre. Donc les Hawks, je me suis mis défense des Hawks sur mon petit facteur X. La défense des Hawks, comme je l'ai dit, ils ont proposé une très belle défense face aux Knicks, même en fin de saison régulière, grâce notamment à DeAndre Hunter, qui a beaucoup embêté Julius Randle. Et Clint Capela, qui dans la raquette, bah, c'est Clint Capela, quoi. C'est un très bon défenseur. Et donc je me dis, est-ce que ils peuvent pas être assez bons en défense pour embêter cette équipe de Philly, donc en mettant en Capela évidemment face à Joel Embiid. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la saison régulière ou pas forcément regardé les matchs Sixers-Hawks, je ne suis pas sûr de les avoir tous vus, mais en tout cas, il n'y a eu que des blowouts. Il y a eu le match où il n'y avait aucun cadre sur le terrain, où Tyrese Maxey, je crois, a fait un match de folie. Il y a eu, je sais même pas s'il y a Trae Young, je crois qu'ils ont fait trois matchs, il doit y avoir Trae Young sur un des trois matchs seulement. Donc voilà, les rencontres entre les Hawks et les Sixers sur la saison régulière, ça voulait un peu rien dire. Mais du coup, pour en revenir à mon sujet principal, Embiid n'a pas forcément fait des super matchs. À chaque fois, les Sixers, c'était un joli collectif, mais Embiid n'a pas forcément brillé. Est-ce que c'est Capela qui défendait bien? Est-ce qu'il était juste dans des jours sans? Là, je me souviens pas. En tout cas, je pense que Capela, il peut l'embêter. Il va falloir faire attention aux fautes, évidemment, car bah, Joel Embiid, il sait provoquer les fautes. Il est assez intelligent pour ça et assez fort pour ça. Donc, il va falloir faire attention à ça. Mais il peut s'en occuper. De l'autre côté, Hunter, donc, qui a bien défendu Randle, je l'ai déjà dit, peut s'occuper, pourquoi pas, de Tobias Harris. Même si ça risque d'être assez compliqué, parce que Tobias Harris, c'est pas Julius Randle, hein, il est pas à son premier essai en playoff, il est bien plus âgé, c'est un petit filou. Donc attention à ça. En attendant, il peut se le farcir et il peut pourquoi pas l'embêter, sachant que si Embiid est pas à 100%, si Ben Simmons score pas énormément, après s'il est fort dans les autres aspects du jeu, et qu'il envoie des bons ballons sur un Seth Curry par exemple, ou un Danny Green qui font soit l'un soit l'autre, pourquoi pas les deux font une série de fous, c'est là que peut être la différence. Mais je pense que les Hawks ont une défense qui peut un peu freiner la belle attaque des Sixers et les cadres des Sixers, quoi. Ils ont les bons défenseurs au bon poste, on va dire. Sachant qu'il va falloir camoufler aussi Trae Young, qui est malheureusement avec son gabarit. Un mauvais défenseur. Et c'est là que ça peut coincer du côté de la défense d'Atlanta. Soit tu le caches sur un shooter, ce qui ils vont être obligés de faire ça. Soit t'es mort en fait. Si Ben Simmons commence à se faire plaisir face à Trae Young, ça va vraiment pas être possible. Donc ils vont être obligés de le cacher sur un des shooters. Et attention si les shooters prennent feu comme je viens de le dire. En tout cas, je pense que la défense côté Atlanta peut être game changer sur cette série, pourquoi pas. Côté Philly, côté Sixers, j'ai pris Joel Embiid, évidemment. Je pense que voilà, vous me voyez venir au premier tour, notamment pour les Lakers. J'avais pris le duo LeBron et AD et leur santé. On a vu que la santé, c'était pas trop ça, surtout côté Anthony Davis. Et ça a pas mal joué sur la série, mais bon, on en reviendra peut-être. Je crois que je pourrais faire la preview de l'Ouest avec Aurélien, donc on reviendra peut-être dessus. Après, il n'y a pas de débat, les Suns ont été meilleurs. Mais pareil, je continue à m'étaler. Donc, la santé de Joel Embiid, s'il rate un match et qu'il revient à 100%, il n'y aura absolument pas photo pour moi. Si il rate deux matchs, qu'il n'est pas à 100%, que ça va pas, ça peut être dangereux. Je pense pas que ça change foncièrement la fin de la série. En fait, moi, je vais vous donner mon pronostic et puis je vais en discuter un peu. Je pense voir les Sixers en quatre matchs, mais si Jojo revient pas à 100%, ça peut être beaucoup plus compliqué. En tout cas, il va falloir que les autres joueurs se sortent les doigts, comme on dit, comme on dit quand on est un bon beauf. Il va falloir que le collectif redouble d'efforts pour justement compenser un peu ce manque de Joel Embiid. Alors, soit le manque entier, franchement, j'ai vraiment pas envie que ça se passe comme ça, mais ça fait flipper quand même, hein. Il faut en être conscient des blessures. Donc, à voir. S'il est là, je pense que même si Clint Capela peut bien défendre, il y aura certainement pas photo. S'il n'est pas là, ça va être assez compliqué, surtout côté défensif aussi, puisque là je parle beaucoup de l'attaque et de la puissance de frappe de Joel Embiid, mais côté défensif, il va fermer la raquette pour des Trae Young, il va évidemment fermer la raquette pour Clint Capela, mais c'est pas la même chose quand tu as Joel Embiid ou quand tu as mince, quand tu as Dwight Howard, même si Dwight Howard est un très bon défenseur, il nous l'a montré l'année dernière en playoff pour les Lakers. Cette saison, ça va être un peu plus compliqué. Il a pris un peu d'âge, même s'il est en belle forme physique. C'est pas la même chose hein, d'avoir Joel Embiid ou Dwight Howard dans ta raquette. Ça peut énormément changer, peut-être pas le cours de la série, en tout cas la facilité ou non des Sixers à passer. Mais donc je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas trop ce que je pourrais dire de plus de toute manière sur cette série. Elle va être, je pense, très intéressante de voir Trae Young comme ça. Surtout que les Sixers ont l'avantage du terrain. Ils aiment bien jouer à la maison. Alors ça se trouve, ça va être un 4-1 et on n'en parlera plus. Hein. Ça va peut-être aller très très vite. En tout cas, j'aimerais bien que cette série aille un peu plus loin qu'un 4-0 ou qu'un 4-1. Qu'on voit un trait dans les matchs chauds, bien défendus, je pense que ça va être. J'ai peur que la série soit compliquée pour lui. J'en ai pas parlé, mais ils ont de très beaux défenseurs aussi côté Sixers. Alors attention. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour pour ces demi-finales. N'hésitez pas à venir me dire si j'ai oublié des trucs ou même si vous avez des facteurs X différents, par exemple. Je sais pas, moi, si vous avez des joueurs que vous allez vraiment bien regarder. Sur ces demi-finales. De mon côté, après mes pronos, ce sera donc un Sixers-Bucks en finale de conférence Est, et ça peut être très très intéressant. Franchement, la finale, que ce soit, moi, je vois pas les Hawks passer, hein, contrairement à un certain Mathieu qui en privé n'hésite pas à me dire qu'il voit Atlanta passer, une belle surprise, tout ça tout ça. Bon, peut-être qu'il en parlera. Un jour, s'il revient dans le podcast, on verra. En tout cas, que ce soit Sixers Nets ou Sixers Bucks, ce sera certainement incroyable à suivre. Mais j'ai fait le tour pour ce podcast. Comme d'habitude, venez me dire ce que vous en pensez sur Instagram, sur Twitter même. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur Twitter. Je ne sais pas si c'est un réseau. Où vous êtes actif sur Twitter, les commentaires YouTube sont là. Mettez des pouces bleus, mettez des étoiles, abonnez-vous sur les plateformes de podcast, abonnez-vous à YouTube, tout ça, bon voilà quoi, le référencement. Allez, je le dis à tous les podcasts, mais en tout cas, c'est important, important pour moi. C'est quand même pas mal de travail fourni pour essayer d'avoir un contenu sympa, je l'espère. Mais bon, je vais arrêter là, je vous dis. Bonne demi-finale de conf, bonne demi-finale de conf qui commence dès ce soir. Soyez au rendez-vous cette nuit, hein. 1h30 le premier match entre les Nets et les Bucks. Et puis une bonne journée. Salut!